Bien, alors, vous allez prendre la paracha dans Zohar. Tout à l'heure, nous allons prendre une référence dans un autre livre, une référence qui nous donnera la définition du livre de Zohar. Mais je veux d'abord qu'on étudie un verset que nous avons déjà étudié certainement une autre année, et qui me semble extrêmement important pour comprendre la différence qu'il y a entre le livre de Devarim, qui est le cinquième du Pentateuque, et les quatre premiers livres. Les quatre premiers livres, c'est l'enseignement de Moïse à la génération de la sortie d'Égypte. Et ce qui caractérise enfin, le problème principal par rapport à l'exégèse de la Torah concernant les quatre premiers livres, c'est le fait de l'identification dans la Torah, je ne dirais pas de deux sujets, c'est plus que deux sujets, c'est deux genres différents. C'est l'explication de l'histoire du monde, depuis la création jusqu'à la sortie d'Égypte, et au moment de la sortie d'Égypte, la révélation de la législation de la Torah. Or, il y a là deux genres complètement différents dans le même livre. C'est d'ailleurs l'objet de la première question de Rashi, dès l'origine de son commentaire. Donc vous y référerez. D'autre part, Rashi cite, en le formulant à sa manière, un midrash qui se trouve sept fois dans la Torah Shebaalpé, que normalement on devrait s'attendre à ce que la Torah ne commence que à la première des mitzvot qui serait la reçue à la sortie d'Égypte. Si on donne au mot de Torah le sens de loi, mais voilà que la Torah, en hébreu, c'est un mot qui signifie beaucoup plus que loi. C'est la révélation de tout ce que Dieu a à dire à l'homme, en particulier la législation pour la conduite humaine. Mais Torah ne signifie pas loi. Ça, c'est une déformation de sens que nous tenons des traductions chrétiennes. Torah, ça veut dire révélation, dévoilement, quelque chose qui nous est caché et qu'on nous a montré. Le Moré, le maître Moré, c'est celui qui désigne. Et c'est la même racine que Torah. En fait, sémantiquement, c'est un peu plus nuancé que ce que se schématise. Il y a donc au minimum, dans le sens du mot Torah qui désigne le Rumash, les cinq livres, les cinq Rumashim, le Torah Moshim, au minimum deux sens, la révélation du sens de l'histoire, comme préface de la révélation de la législation. Et c'est un sujet extrêmement important. On est tellement familier au fait que dans le même livre, il y a ces deux genres. On ne se pose pas la question, mais Rachid l'a posé. Ça ne va pas ensemble. Il aurait fallu, normalement, je nuance un peu, que nous ayons deux livres. Un livre qui nous raconte le sens de l'histoire du monde d'après la prophétie des prophètes d'Israël, depuis la création jusqu'à la sortie d'Égypte, et le livre qui suivrait, ce serait le livre de Josué, l'entrée dans le pays d'Israël, et d'autre part, un livre de Torah dans le sens de loi, dans le sens de Shulchan Aruch, des mitzvot qu'il faut faire. Et à la longue d'ailleurs, dans la plupart des communautés juives, on s'est habitué à négliger le texte de la Torah, qui est le texte historique, pour ne se baser essentiellement que sur les versets des mitzvot. Par exemple, c'est l'habitude dans beaucoup de yeshivot, par rapport au phénomène analogue qu'il y a dans le Talmud. Dans le Talmud, il y a la Haggadah et la Halakha. On a l'habitude, enfin l'habitude, une tendance à sauter sur les pages de Haggadah qu'il y a dans le Talmud, pour s'occuper surtout des pages de Halakha. De la même manière, dans la Torah, on porte plus d'attention aux versets qui donnent les mitzvot, la législation, qu'aux récits historiques. Si nous avions le temps, mais je ne vais pas trop prendre de temps sur ce point, on verra que pour le Talmud, le monde de Torah doit être réservé surtout aux récits historiques. Et dans le récit historique, il y a des versets du récit historique qui désignent les mitzvot, mais qu'on étudie dans la Mishnah. On n'étudie pas les mitzvot dans la Torah, on étudie les mitzvot dans la Mishnah. Je donne un exemple. Il y a un verset de la Torah qui nous dit qu'à un certain moment de l'histoire de la révélation, Dieu a transmis à Moïse pour Israël le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais cette mitzvah-là, ça ne s'étudie pas dans le verset, ça s'étudie dans la Mishnah. Et comment on fait pour aimer son prochain comme soi-même ? Il faut étudier ça dans le Talmud. Simplement, on apprend que cela a été dit dans le récit historique. Et d'ailleurs, puisque je parle de ce verset, la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on étudie la moitié du verset. On étudie « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». D'ailleurs, la traduction est fausse, j'y reviens. En oubliant la fin du verset « Je suis Hachem ton Dieu ». Et alors, il y a une étude du verset pour le verset qui s'appelle « Mikra » qu'on a négligé. On étudie la mitzvah dans la Mishnah, surtout. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais... Et en particulier dans le monde ashkenaz, c'est le Maharal de Prague qui a réinstitué l'étude de Parchamut à Mikra, comme Mikra. Il avait appris cette méthode à la Yeshiva Sfaradi d'Amsterdam. Je le dis en clair. C'est pourquoi, en Israël, tous ces enseignements sur la Parashat HaShavua, dans la formulation officielle, c'est la Shita du Maharal. En réalité, c'est la Shita Sfaradi d'Amsterdam. D'étudier le Mikra pour Mikra. Et le Mikra, c'est le texte de la Bible. Okay? Et puis la mitzvah, comment on applique la mitzvah, c'est dans le Talmud qu'on étudie. Je reprends la phrase de tout à l'heure. Voilà, la Torah nous dit une chose importante, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, je vous ai fait, c'est mal traduit. Mais je vous cite la traduction habituelle. Et comment on fait ça? Ça s'apprend dans le Talmud. Ça ne s'apprend pas chez Socrate ou Voltaire ou Rousseau. C'est pas pour rien que j'ai choisi ces noms-là d'ailleurs. Et je vous indique très rapidement à quel point la traduction est trompeuse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si je ne m'aime pas moi-même, et vous savez que c'est une maladie très juive, la haine de soi. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça ne veut rien dire cette histoire-là. Alors, très très rapidement, on ne lit pas le verset comme il est écrit. Il y a écrit « Ve'ahavta le'ayaracha kamocha ». Si ça voulait dire, s'il y a des gens pour qui l'hébreu n'est pas suffisant, interrogez-moi. Hein. Je m'excuse, je ne sais plus parler français, j'ai dit des gens, enfin des présents, des présents. Si ça voulait dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il devrait y avoir écrit en hébreu « Ve'ahavta le'ayaracha kelecha ». Il y a écrit « Ve'ahavta le'ayaracha kamocha » et pas « kelecha ». Vous avez entendu en hébreu la différence? Ne me dites pas non. Or, en hébreu, il y a deux verbes pour dire aimer. Soit l'objet de l'amour, c'est l'objet authentique de l'amour. Alors, le complément d'objet est introduit par et. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et si j'aime autre que Dieu, c'est déjà le commencement de l'idolâtrie. Et puis, c'est mène à ça. Donc, un de mes maîtres, il me disait. Si tu dis à ta femme, je t'adore, c'est que tu es un idolâtre. Et tu as le droit d'adorer une femme à la place de Dieu. Oui, on ne sait pas ce qu'on fait en parlant. C'est le problème de l'adoration. Et on sait pas ce qu'on dit en parlant. Et le commandement de la Torah, c'est que l'objet de l'amour de la créature, c'est le fait Ve'ahavta, tu aimeras qui est Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu. Et pour toute autre présence, créature que Dieu, c'est une toute autre forme. C'est Ahor, les, aimer pour. Alors je vous décris ce que ça signifie en hébreu. Cet amour qui ne doit aller qu'à Dieu, je le fais dériver vers quelqu'un d'autre au passage pour qu'il en profite. C'est le lamed. En grammaire française, c'est du latin d'ailleurs, c'est le datif. Vous connaissez cette forme grammaticale. Attribuer ce qui va à Dieu en le faisant passer pour quelqu'un, en faisant profiter quelqu'un. Est-ce que c'est clair, cette indication de grammaire? Alors, est-ce que dit le verset? Ça veut dire, tu aimeras, sous-entendu, Dieu pour ton prochain. Et pourquoi? Parce qu'il est comme toi, Kamocha, parce qu'il est comme toi. Il y a un commentaire qui ajoute, uniquement s'il est comme toi. Et ça, c'est de l'idéologie, hein, c'est pas le verset. C'est pourquoi j'ai entendu souvent des gens qui disent « Ce commandement ne concerne que les Juifs ». C'est faux, c'est pas écrit comme ça. Ça concerne le prochain. Et le sens direct du verset, c'est parce qu'il est comme toi, créature du même Dieu. C'est pourquoi à la fin, il y a « Je suis Hachem ton Dieu ». C'est-à-dire, moi, Hachem ton Dieu, c'est moi qui l'ai créé. Vous avez compris le raisonnement? Le Dieu de la Bible protège le Réa. Mon Dieu protège mon Réa. Tandis que dans les autres religions, mon Dieu protège moi, et le Réa, Dieu préserve. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais te donner un petit commentaire de Kabbalah, sans employer les termes de Kabbalah. Je connais énormément d'auteurs très sérieux qui ont peur de dire que ça veut dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça les gêne vis-à-vis des goïms, que le verset voudrait dire mes proches et les autres pas. Alors il y en a qui traduisent tu aimeras ton lointain comme toi-même. Je ne dirais pas qu'ils traduisent comme ça. Ils sont fiers en plus. Et ce qui a écrit, il a écrit. C'est avec celui qui est le plus proche que le commandement est nécessaire. Celui qui est loin, ça ne concerne pas. Ça n'engage rien à personne d'aimer le lointain. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Là où c'est difficile, c'est quand c'est le prochain. Est-ce que c'est clair? Parce que tout autre que moi est d'abord un rival. Plus il est proche, plus il est rival. Alors c'est pourquoi la Torah donne un chidouche, un commandement, là où c'est nécessaire. C'est par rapport au prochain qu'il faut qu'on ait un avertissement. D'autre part, il y a un tout autre verset. Tu aimeras l'étranger comme toi-même. Mais c'est du même chapitre. Mais c'est un autre verset. Et c'est un verset qui doit être clair. Il y a écrit l'étranger. S'il se considère comme étranger, s'il se considère que c'est lui le propriétaire et toi l'étranger, c'est ce qui se passe au gouvernement actuel. Enfin, dans les problèmes du gouvernement actuel, ils ne savent pas lire. Bon. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé ce matin à la Knesset. Et même par mystère, on ne sait pas pourquoi, la motion du Maharar est tombée. Et la majorité était pour l'opposition. Vous avez suivi ça? On connaît l'explication? Mais ça ne suffit pas. Il y avait trois voix de différence.
Il y avait trois voies de différence, il a dit de toute façon, même si je ne sais pas
trouver,
ça s'est passé.
Vous voyez que tout peut arriver en Israël. Surtout à la veille de Tishabé. Non, ça ne va rien changer à rien, mais c'est bizarre. Sur ça, est-ce que c'est nous qui sommes chez nous ou est-ce que nous sommes étrangers? Et alors, il y a eu un vote, et puis une motion du Maharar qui appuyait la politique du gouvernement que ce pays appartient aux Arabes, qui est tombé. Par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a leur doute. Même les chassidim qui ont la moitié d'un doute, chassidout, ils n'en doutent pas. En tout cas, pour venir au sujet. Vous voyez ce que veut dire le verset? Tu aimeras pour ton prochain parce qu'il est comme toi-même, rival. Non, attendez, j'explique mieux. Parce qu'il est comme toi-même, créature du même Dieu. Et j'ai tendance, naturellement, à voir le prochain comme le mal dont il faut que je me débarrasse. C'est pourquoi c'est le même mot, Ra et Réa. C'est ça que je vous citais de Kabbalah. L'homme a tendance à voir le mal chez l'autre. Et plus il est proche, et plus il a mal. Alors c'est pourquoi c'est dans ce cas que la Torah doit dire « Fais attention, tu aimeras ton prochain, parce qu'il est comme toi-même. » La Torah ne dit pas des banalités. Est-ce que c'est clair? La Torah n'a jamais pensé à dire « Tu aimeras ton lointain, il n'y a pas de problème. » Aimer en intention, c'est une chose qui n'engage en rien, sinon la bonne volonté de l'inclination du cœur. C'est très romantique. J'aime les Congolais. Asma. Non, je ne le présente pas, parce qu'il y a des années, Le monde entier avait découvert les Congolais, le Congo, vous vous rappelez pas de ça? Et alors il y avait des associations israéliennes d'aide aux Congolais. Mais les Juifs de Syrie, c'est un autre problème. Vous voyez à peu près tout. Tout là. Retenez cela. Il y a Ahov et Ahov les. Pour la crainte, on a le même problème. Yaro et, c'est toujours pour Dieu. Yareta et Hachanokecha. Et Yaro mais, c'est pour quelqu'un d'autre. Crainte de même. La crainte de Dieu qui passe par quelqu'un d'autre. Mais c'est souvent. Et la faute de Shaoul, vous verrez le verset, c'est d'avoir dit j'ai eu peur du peuple en mettant et. Yareti et ha'am. Est-ce que c'est clair ce que je dis dans les mots? Vous verrez le verset. À propos de Agag, et c'est là que Shaoul a eu la même maladie que Menachem Begin, il est tombé en dépression. Vous avez remarqué ça, hein? Shaoul, c'était quelqu'un, un grand en Israël. Mais on préfère David. C'est le commencement, toujours. Le Begin in. Pour revenir au sujet, pourquoi je vous ai parlé de ça?
Hein?
Mais ça, je vous en ai parlé en fin de parenthèse.
Hein?
Pour vous dire qu'il y a dans la Torah deux genres. Il y a le récit historique, pendant, à travers lequel la Torah nous raconte que Dieu a dit telle ou telle mitzvah à Moïse pour Israël. Et il y a d'autre part, les mitzvot elles-mêmes, qui elles s'étudient dans la Mishnah. Vous pouvez retenir bien ça. Ce qu'on dit Talmud Torah, c'est la Gemara. La vraie mitzvah de l'étude de la Torah, c'est la Gemara. Maintenant, ceci dit, il y a une autre mitzvah qui consiste à étudier le Mikra. C'est une autre mitzvah. Et cette mitzvah a été tombée en désuétude. Elle a été réinstaurée par la lecture de la parasha à savoir. C'est clair, je schématise, mais c'est clair, je pense. Et la différence entre les quatre premiers livres donc, et le cinquième, c'est que le cinquième livre, c'est la récapitulation des mitzvot pour la génération qui va rentrer en Israël. Nous en particulier. Nous en particulier, que la motivation du Shabbat dans les 10 commandements est différente dans les 4 premiers livres, dans la paracha de Yitro, et dans le 5e livre, dans la paracha de Vaitranan. La motivation du Shabbat pour la génération de la sortie d'Égypte, c'est la création du monde. Et la motivation du Shabbat pour la génération qui rentre en Israël, c'est la sortie d'Égypte. Et il y a donc cette différence de formulation dans le livre de Devarim, qui a différentes, comment dire, dimensions. Il y a la différence de formulation de Devarim par rapport aux quatre premiers livres. C'est tout un monde. Mais en particulier cela, la motivation des Mitzvot pour la génération de la sortie d'Égypte et la motivation des Mitzvot pour la génération de la rentrée en Israël. En particulier l'exemple classique, c'est la motivation du Shabbat. C'est clair, ça vous est clair. On va étudier un verset. Et ensuite, nous aborderons un thème que nous allons étudier chez les Chassidim. Pourquoi Moïse, au début de sa récapitulation de la Torah dans les livres de Devarim, va rappeler les différentes étapes où il y a eu des fautes d'Israël. Ça, nous verrons en deuxième partie du cours. Alors, premièrement, le verset que je vais lever, c'est le chapitre 5, non, c'est le verset 5, mais de quel chapitre? Chapitre 1, verset 5. Alors, je lis le verset. Béhéver à Yarden, en deçà du Jourdain. Béret Moab, dans le pays de Moab. Hoïl Moshe, Moïse a entrepris, Béret Atorah Azot les morts, d'expliquer cette Torah en disant. Et le verset qui suit prend le récit à partir du Sinaï. Et donc c'est bien à partir du Sinaï que les mitzvot vont être révélées. Et alors, il y a, je vérifie si Rachid déjà le dit. Oui. Regardez bien Rachid sur Béret Torah. Moïse a commencé à expliquer cette Torah. On s'attendrait à un commentaire qui fasse allusion à quoi ? Que Moïse a expliqué la Torah. À quelle expression traditionnelle la Torah et son explication ? C'est quoi l'explication ? Non ? Essayez de comprendre ma question. Regardez le verset. Be'er est la Torah azot. La Torah reste la Torah. Et Moïse va l'expliquer. Je n'ai pas dit commenter. Où on a l'explication de la Torah ? Je vous l'ai dit deux fois tout à l'heure. Très bien, c'est la Torah chez Balpé. Est-ce que c'est clair ?
Oui.
Alors on s'attendrait à ce que Rachid nous dise Torah chez Balpé. Il nous dit tout à fait autre chose. Qu'est-ce que dit Rachid ? Béchilim Lachon, Pirchalay. Il l'avait expliqué en 70. Ah, c'est très paradoxal. Je fais une petite introduction sur la notion des 70 langues. Les 70 langues, c'est les langues des 70 nations. Où est le paradoxe ? C'est qu'on vient de quitter l'exil, on est relié aux 70 nations, on rentre en Israël, et c'est là que Moïse leur explique comment il faut parler la Torah aux nations. C'est paradoxal. Vous avez compris ma question ? Qui pourrait expliquer ? Qui pourrait proposer une explication ? Vous avez droit à 70 ans. Choisissez celle que vous voulez.
Ce serait dangereux de s'isoler ?
Qu'est-ce que ça veut dire dangereux ?
Ce serait pas sain par rapport à la mission d'Israël.
Oui, il s'agit de mission d'Israël, il s'agit de rentrer chez soi. Justement, c'est ça qui est en question. Quand on parle de mission d'Israël, on parle de l'exil. Que Israël est indexé aux 70 nations, mais ça c'est la clava d'Israël, c'est l'exil. Oui, attendez, mais bien que nous soyons ici, en Israël, on est encore imprégné d'une mentalité d'exil. Est-ce que j'ai besoin d'être en exil pour dire la parole de Dieu aux nations, qui m'itziot et zetora, ou de Rachel Mirouchaleï ? J'ai besoin d'être otage de l'Angleterre, ou de l'Allemagne, ou de l'Espagne, ou de la France, pour que les goïmes sachent ce que Dieu a dit. Je ne peux pas le dire d'Israël. Moïse a tiré les Hébreux d'Égypte pour les faire rentrer chez eux. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il leur apprend la langue des étrangers. Oui, oui, là, le paradoxe, c'est clair. Alors là, je vais reprendre ce petit point dont j'ai parlé. C'est qu'on parle de la mission d'Israël. Mais quelle est la mission d'Israël ? C'est d'être chez les autres pour dire ce que Israël a dit, ou dire à partir de chez lui ce qu'il a à dire aux autres. D'ailleurs, on va retrouver notre même verset. C'est évident que nous sommes un peu déformés par 2000 ans d'habitude. Je vais vous dire comment, en général, la question se pose à moi chaque fois que je parle en diaspora. Formulation classique. Quelle est la justification de la diaspora ? Et alors, pratiquement personne ne dit la vérité, parce que la vérité, c'est qu'on est chez les goïms parce qu'on est chez les goïms. Un point, il n'y a aucune raison. Celui-là est en France, celui-là est en Angleterre, et on fait des affaires chez les goïms. Mais j'entends très souvent, nous avons une mission chez les goïms. Laquelle ? Et je donne la permission de le dire, mais personne ne le dit. Et alors, il y en a un, des fois, parfois, qui a le courage de dire, nous devons leur enseigner la parole de Dieu. Mais Ribouna, chez Lola, dans quelle communauté de diaspora, c'est les juifs qui enseignent la parole de Dieu aux voyous? C'est les curés qui font ça, c'est pas les juifs. Je sais pas si c'est clair. Hein? J'entends pas.
On a le droit de se faire.
Oui, non, mais vous avez changé de sujet. Ce que je parle, c'est quand on formule la mission d'Israël en diaspora. On a tendance à dire, mais nous devons leur enseigner ce que Dieu a dit. Et bon, non, c'est là, de quoi on parle? Alors, je connais énormément d'universitaires juifs en France. Et il y a un phénomène de statistique massif. Le nombre d'enseignants dans les universités d'origine juive. Mais qui enseigne la parole de Dieu? Ils enseignent tout, sauf ça. Ils enseignent tous les ismes du monde. Marxisme, existentialisme, tout ce que vous avez. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça veut dire qu'on s'est habitué à une formule vide et qui était vraie à un certain moment. D'ailleurs, je n'ai pas fait expression sur ce verset, mais il y a 2000 ans, on a enseigné au Goïm, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, deux choses, une, on l'a déjà enseigné, et ça ne sert à rien. Et puis, comment ils l'ont entendu? Tu aimeras ton prochain, sauf juif, comme toi-même. Alors, le résultat est catastrophique, comme vous savez. L'Inquisition en Espagne et la Shoah en Allemagne. Ça, c'est la part des Sfaradis, mais ça, c'est la part des Ashkenazis. Mais, il y a là quelque chose à comprendre. Vous voyez ma question? À quoi Moïse pense de leur apprendre à comprendre la Torah dans les langues des nations? Vous avez compris ma question? Là, vous avez répondu un peu, mais à la manière des Juifs de Galilée. Il ne faut pas s'isoler, ça veut dire quoi? Regardez la situation actuelle. Qui est isolé où? C'est très différent d'être Israël parlant à partir d'Israël aux Goïm, que d'être les Juifs en otage chez les Goïm pour faire semblant de ne pas parler. C'est très différent. Et puis je dirais plus, ça se voit. Il y a dans tous les pays de diaspora, il y a une colonie israélienne et il y a la communauté juive. Bon, je ne sais pas, vous n'êtes pas habitués, mais moi, à chacun de mes voyages, je vais chez les uns et les autres. La relation des goïms à la colonie israélienne et la relation des goïms à la communauté juive n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. En général, d'ailleurs, la malignité des goïms se traduit par la formule « Vive Israël, abat les juifs ». Je ne sais pas si c'est clair. Vous avez entendu ce morceau. Et alors, c'est très différent. La vision de cette mission, entre guillemets, c'est « Kimitzion, etc. » Vous voyez, c'est déjà la mission de la Torah, ça sort de Sion. Et vous arrachez Mérushalayim, donc la réponse n'est pas exacte. Je vous dirais un commencement de réponse qui existe, mais qui n'est pas satisfaisant. Qui peut proposer? Ah oui.
En revenant de Galout, il ramène ses 70 ans d'Adam. Mais
dans
chacun ramène sa Torah.
Attends, tu es dans une anachronie parfaite. Il s'agit d'un verset qui parle des gens de la sortie d'Égypte et qui rentrent dans le pays pour revenir hébreu. Et alors, si en revenant de Galout, ils avaient les 70 langues, c'est pas ça que Moïse devait leur apprendre. Ils devaient leur apprendre l'hébreu.
Et bien, il doit peut-être justement leur réapprendre la Torah dans ces langues-là qu'ils connaissent,
jamais
de manière cachée.
Mais jamais de la vie, ils ne les connaissent pas ces langues-là. À la rigueur, l'Égyptien et ceux qui connaissaient l'Égyptien, ce n'était pas du tout cette génération-là, c'est ceux qui sont restés en Égypte. Non, c'est un peu partiel, mais tu es anachronique. Tu parles en raisonnant de notre temps. Est-ce que c'est clair? J'essaie d'expliquer ce que tu dis. C'est que pour qu'ils comprennent la Torah, il faut qu'ils la comprennent dans la langue du pays où ils viennent. Ça, c'est pour nous aujourd'hui.
Est-ce que ça ne serait pas alors tout simplement pour enseigner la Torah aux peuples qui viendront en Israël pour l'apprendre?
Ça, c'est un rêve.
Mais,
הרבע שעודים בא ואומר לעם ישראל, עכשיו אתם תכנסו לארץ ישראל. ועכשיו תפקידכם יהיה בהכרח בתור עם ובתור כלל, לבוא ללמד את התורה הזאת, למסור את המסר של עם ישראל לאומות העולם. ואתם יכולים, אל תתפתו לניסיון הזה של ללכת ולהיות בתור פרט או בתור גלויים, ללכת ללמוד להם משהו. איפה
לא עשיתו בגלל מה? אתה אמרת אותו דבר, מה שהוא אמר.
לא, אני אמרתי משהו אחר. אמרתי רק שאת המסר של להיות עזבולה בגוי ולמסור את התורה לעם, ולא הייתי אומר לאומות העולם, זה יכול לעשות רק לפני הכניסה לעולם. רק בתור...
תשמע. אין שום, je vous dis un hébreu d'abord, après je vous traduis. אין שום מטרה לעם ישראל, ללמד תורת ישראל לגויים. אלא ללמד מצוות בני נוח לגויים. זה אסור ללמד תורה לגויים. אסור. Je veux dire, vous avez compris comment il a expliqué la question. En fait, la réponse que je donnerai, je me base sur l'enseignement du Rav Kook. Une fois, on étudiait ça dans l'Ilchot Mandrim, c'est interdit d'enseigner la Torah aux goyim. Alors je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est interdit d'enseigner la Torah aux goyim? Il dit, c'est pas possible, alors c'est interdit. Et c'est une étonnée claire. Là, je cite une source de la Kabbalah. Il n'y a que ceux qui sont circoncis qui peuvent comprendre la Torah. Bon, j'expliquerai pas, hein, mais c'est une donnée très très connue. Assez de faire des interruptions comme ça. À qui je parle ? Vous ne savez pas, vous me gênez quand vous êtes des... Il y a, bon, ce sujet, je ne veux pas l'approfondir, il y a une impossibilité. Je vais essayer d'éclairer, donc il ne s'agit pas de ça. M'amnechet Kohanim et Gokadosh, ce que Israël, en tant que M'amnechet Kohanim et Gokadosh, a à faire vis-à-vis des Goïm, ce n'est pas du tout d'enseigner la Torah des Kohanim aux Goïm, c'est de leur enseigner à eux, les Goïm, ce qu'ils doivent savoir, pour vivre comme Goy. C'est les mitzvot des Noirs que nous avons transmis aux Goy. J'ouvre une petite parenthèse, et je me rappelle ce que le Rav Kook disait. Il disait, c'est pas possible, c'est pour ça que c'est interdit. Et à la rigueur, on leur raconte ce qu'il y a dans la Bible écrite. Et la Torah Shebaal-Pé, c'est un issou de halakha, c'est interdit. C'est pour ça en particulier que moi, personnellement, je suis complètement opposé, et je ne me cache pas de le dire, depuis la traduction de la Bible en français, de la fondation... Comment s'appelle cette fondation ? Hein ? Parlez plus fort, je crois. Non, ils n'ont pas traduit la Bible. La traduction de la Bible avec Rashi traduit. Nahon. Je vais vous dire, j'ai fait partie de la première réunion des rabbins qui ont été réunis juste après la guerre pour ce projet. Il y avait une famille juive de la rue Cadet qui avait un budget pour cette... Et j'ai refusé d'en faire partie. Et je pourrais vous donner d'ailleurs des exemples. Dès le début, tout est faux dans cette traduction. Mais c'est pas tellement ça. C'est de mettre à disposition des goyim les sources de la Torah Shebaal-Pé qu'ils interprètent à leur manière. C'est très paradoxal ce que je vous dis là. Et... cette semaine seulement, on m'a demandé de faire la préface de la traduction du Maldim sur le livre de Josué. Et alors j'ai expliqué, moi je suis contre les traductions. Ils m'ont dit non, c'est une communauté orthodoxe de Marseille, ils veulent que ce soit vous qui faisiez la préface. Je vous garantis, je vais le dire dans la préface, pourquoi je suis contre. Parce que ça sert au goyim et ça sert pas aux juifs. Et qu'est-ce qu'ils en font ? Eh bien on le sait depuis la traduction des Septante. Et la preuve, c'est que le Talmud raconte que lorsque les Ptolémées ont imposé aux rabbins de faire la traduction, ils ont voulu 70 hachamim, comme le Sanhedrin, et pour ça c'est la traduction des Septante. Et pour être sûr qu'ils n'étaient pas trompés, on a mis chaque rabbin dans une chambre à part, et le miracle a été qu'ils ont été inspirés de traduire de la même manière. D'où une grande leçon. Pour mettre les rabbins d'accord, il faut les séparer. Oui, j'ai dit du mal des rabbins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les rabbins ont décidé, 3 jours de jeûne, lorsqu'il y a eu la traduction des Septante, ils se sont arrangés pour traduire de la manière la plus incompréhensible. C'est pourquoi vous avez une Bible où il y a des choses incompréhensibles. Vous avez déjà suffisamment d'exemples. Je vous en donne un seul, classique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, résultat, le chaos. C'est comme ça que c'est écrit. Bereshit, bar Elohim, shamay v'taret, totsa, v'areshit tatou babou. On ne se rend pas compte de ce qu'on lit. Parce qu'on le lit en grec. C'est Dieu qui crée le ciel et la terre. Résultat, la terre, c'est un chaos. Dans la tête de qui ça rentre ça? Je ne sais pas si c'est clair, celui-là. C'est... Vous allez me dire, mais même les Hébreux traduisent comme ça. Non, les Hébreux traduisent en français. C'est en français que ça veut dire ça. Pour savoir ce que ça veut dire en hébreu, il faut faire de la Kabbalah. Je ne sais pas si c'est clair, celui-là. Et toutes ces invraisemblances du texte biblique nous viennent de traduction. Je pourrais vous donner d'autres exemples, enfin, on ne va pas allonger le problème. Et voilà la réponse à ce que tu dis, toi. Ce n'est pas du tout la Torah d'Israël qu'Israël a enseigné aux Goïms. Ils ont enseigné la Torah pour les Goïms. Est-ce que c'est clair, ce que tu dis? Alors, proposez quelque chose d'autre. Hein? Oui.
Chaque langue véhicule le génie propre du peuple qui la parle.
Parle plus fort.
Chaque langue, chacune des 70 langues véhicule le génie propre du peuple qui la parle.
Oui.
Et donc, pour que les Hébreux aient une compréhension complète de la Torah, il en fallait l'idée non seulement hébreux, mais également dans le génie de chacune des.
C'est très clair ce que tu dis là, et je vais vous parler du Sanhédrin. Mais c'est pas la réponse. Le Sanhédrin devait rassembler, c'était la règle, devait rassembler 70 sages avec la règle suivante. Chacun d'entre eux devait connaître la langue et l'idolâtrie d'une des 70 nations. Mais c'est pour une toute autre raison que, comme tu dis, ou comme tu dis un peu à côté, donner aux nations le sens propre au génie des nations de la Torah d'Israël. Je pars de cette indication au sein de ce livre en ouvrant une parenthèse sur le Kriyat Shema. Donnez-moi une Maaseret Brachot. Tiens, tu demandes la clé de la bibliothèque, tu me donnes un Brachot.
Est-ce que ce ne serait pas en prévision de l'exil
pour
les Hébreux,
très bien.
En prévision de la prophétie?
Ça y est, on a entendu. C'est pas en prévision, c'est une prophétie que ça va leur arriver. C'est ça la réponse. Bon, mais ça ne va pas du tout dans le sens que vous avez dit chacun d'entre vous. Et ça, nous avons dans les sources du Midrash que Moïse a diagnostiqué que la galoute recommencerait. Et alors, suivez bien ce que je vais vous dire maintenant. C'est pour que les Hébreux redescendus à galoute ne perdent pas le sens de la Torah, parce qu'ils vont très rapidement ne plus parler l'hébreu et parler les langues des nations. Mais ça continue à être pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un message d'Israël pour les goïms, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'explication de la Torah d'Israël. C'est ça à quoi il faut. D'autant plus que c'est faux dans la réalité. Non seulement Israël n'a jamais rien enseigné aux goïms, mais... Qu'est-ce qui se passe? Avoir quelques essais. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Oui, c'est la clé. Oui, c'est la clé. Non, mais c'est une serrure spéciale, il faut pousser un peu. Voilà. Alors, je vais dans le cerveau. On va voir ça. Il est bien évident qu'il y a un rôle d'Israël pour les nations et que c'est à l'indice des 70 nations c'est-à-dire du génie de chacune des nations. Mais il ne s'agit pas de leur enseigner la Torah d'Israël. Donc ça ne rend pas compte de Rashi sur ce verset. C'est bien clair ? Et d'ailleurs, cette mission d'Israël, qui est d'être hors la Goïm, est formulée par Kémition Tetetora de Rashi de Mishalem. Et c'est dans la Galoute quand Israël a démérité. C'est à partir d'Israël, quand Israël est obsédé, il n'a pas démérité. Je vous donne un exemple en employant le terme chrétien. Le mot de évangile en grec, c'est evangelion. Ça traduit exactement Bsora Tova en hébreu. C'est-à-dire, à la fondation du christianisme, on a annoncé une bonne nouvelle qui vient de Jérusalem. Mais la bonne nouvelle, elle vient de Jérusalem. Elle ne vient pas de Montparnasse, bonne nouvelle. C'est aussi, c'est d'ailleurs cette citation.
Montmartre,
bonne nouvelle. Montmartre. Le Sacré-Cœur. Mais ça veut dire que il ne s'agit pas du tout dans le plan de Dieu pour Israël qu'il faille aller en exil pour jouer ce rôle de Mamlechet Kohanim et Goïm. C'est quand Israël a démérité que la diaspora se transforme en exil. C'est-à-dire qu'il faut se déconditionner de cette synonymie fausse entre diaspora et exil. Je vous dis tout de suite l'essentiel de la différence. Diaspora, c'est la diaspora d'une métropole. Et il y a diaspora quand la métropole existe et quand on peut y retourner. Il y a galoute quand la métropole est détruite et qu'on ne peut pas y retourner.